Évidemment, nos voisins américains, tout ce qui se passe là-bas, on entend parler, comme on dit. Et puis là, bien évidemment, avec Kamala Harris et Joe Biden, à quoi s'attendre? Question qu'on se pose. Et puis, bien, elle est chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand et chroniqueuse politique américaine également, une collègue de travail. Alors, c'est pour ça que je vais probablement la tutoyer, à moins qu'elle exige que lui dise vous. Bonjour, Valérie Beaudoin.
Bonjour, et le tu me va très, très bien.
Bon, bien, ça va bien, Valérie?
Ben oui, ça va bien. Je suis contente de te retrouver dans ce contexte-là. Alors, ouais. On n'aura pas le choix de se tutoyer, on se connaît déjà.
Ben oui, absolument. Alors, Valérie, avec ce qui se passe actuellement, je pense que M. Trump a le Twitter assez facile encore une fois.
Oui, exactement. La nomination de Kamala Harris, je peux vous dire que le camp républicain était prêt, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dans les minutes qui ont suivi qu'on a confirmé Kamala Harris était la potentielle vice-présidente des États-Unis, on avait déjà une publicité de préparer. Elle était déjà sur Twitter. On avait déjà là, un surnom, parce que vous le savez, le président, il aime beaucoup les surnoms.
Ouais.
Sleepy Joe et tout ça. Et là, c'était Phony Kamala et Slow Joe dans la publicité en disant qu'elle était fausse, que c'était quelqu'un qui était de la gauche radicale, qui allait contrôler finalement Joe Biden, qui lui était trop lent pour comprendre. Si je vous résume le propos de cette publicité-là. Et on l'a vu aussi hier dans le point de presse, le président, quand on lui a demandé de commenter ce que Kamala Harris avait dit à son sujet. Il a dit, écoutez, je comprends pas pourquoi c'est elle. Elle a déjà dit des choses encore pires que moi sur Joe Biden. Il a dit, tant mieux, c'était elle que je voulais parce que ça va être plus facile à battre.
Écoute, étant donné qu'on travaille pour la même compagnie, notre metteur en ondes demande que tu montes ton micro un petit peu. On veut tellement bien entendre tout ce que tu nous dis.
Bon, est-ce que vous m'entendez bien?
Ah, on t'entend bien, là, c'est correct.
Ah,
c'est parfait.
Génial.
Alors, écoute, là, premièrement, on n'est pas surpris. Les attitudes de Trump, il y en a eu d'autres et t'en parles souvent. Mais là, c'est vrai que Kamala Harris, à l'époque, n'a pas été tendre envers Joe Biden. Ça, c'est une réalité quand même.
Oui, dans les premiers débats démocrates, parce qu'on peut rappeler aux gens que Kamala Harris était candidate, elle aussi, à la présidence pour les démocrates. Donc, elle voulait avoir le poste que Joe Biden a en ce moment, donc de candidat potentiel à la présidence. Donc, il y a eu des débats l'un contre l'autre. Et dans le débat, je vous dirais, c'est un des moments les plus mémorables de tous les débats qu'il y a eu, parce qu'il y avait plusieurs candidats. Elle l'avait accusé d'avoir eu des amis qui avaient des politiques racistes aux États-Unis et de s'être opposé à ce qu'on appelle le bossing. Et juste pour la petite histoire, dans le fond, c'était quand on voulait mettre fin à la ségrégation raciale aux États-Unis, ben c'est-à-dire, écoutez, dans les autobus, on va s'arranger pour aller dans un quartier plus noir, un quartier d'Américains plus blancs, puis on va les mettre ensemble pour qu'il y ait de la mixité et arrêter vraiment qu'il y ait cette ségrégation aux États-Unis. Alors, il y avait vraiment un moment d'émotion de la part de Kamala Harris en disant, moi, j'étais cette petite fille-là dans cet autobus-là et si on vous avait écouté Joe Biden, ben ça n'aurait pas fonctionné.
Ah ben, et il faut dire qu'elle était à l'école, fait ses études à Montréal.
Oui, à Westmont, alors, son école secondaire.
Ben, sûrement, Trump va sauter sur ça aussi, disant qu'il a choisi quelqu'un qui vient pas des États-Unis. Sûrement qu'il va prendre n'importe quoi pour l'attaquer.
Oui, bien, peut-être aussi le fait qu'elle a des parents, c'est des immigrants aux États-Unis aussi. Mm-hmm. Donc, il va tout avoir cette question-là, parce qu'avec Barack Obama, il y avait cette question, est-ce qu'il est vraiment né aux États-Unis? Est-ce que ça va ressortir, tout ça? Mais je pense qu'il va peut-être moins s'attaquer à ça, parce qu'il sait que ça fonctionne peut-être moins bien. Il va surtout s'attaquer à son passé, à ce qu'elle a pris comme décision, parce qu'elle a quand même eu des... On peut la critiquer sur son passé de procureur général, parce qu'elle a été procureur général de la Californie. Et il y avait des politiques qui étaient très, très dures pour les Afro-Américains. Donc, il va pouvoir dire, bien, écoutez, regardez dans son passé, là, elle était même pas la femme que vous pensez qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va vraiment peut-être gratter là-dessus. Et aussi le fait qu'elle, a des politiques qui sont plus à gauche un peu, même si elle a beaucoup de politiques qui sont plus au centre, donc modérées.
On va peut-être apprendre à Trump qu'on lance pas des roches lorsqu'on habite dans une maison qui est de vitre.
Disons que c'est bien assez dit.
Mais on va prendre l'exemple de Joe Biden, parce que tu disais tantôt que Kamala Harris, elle, veut devenir présidente américaine.
Oui.
C'est son but. Mais je pense qu'elle prend un bon chemin, parce que Joe Biden, à quoi, il va avoir 78 ans bientôt?
Oui, exactement, à la fin du mois de novembre. C'est pas faux de dire que c'est un peu une présidence de transition si Joe Biden est élu, parce que la chance qu'il y ait deux mandats, elle est quand même assez mince. C'est pas faire de l'âgisme, mais c'est un fait qu'il a 78 ans. Donc, est-ce que dans 4 ans, il va être aussi en forme pour faire une autre campagne et être élu pour 4 autres années? Est-ce que ça va faire peur un peu aux Américains? Donc, on vise... Je crois, parce que je ne suis pas dans la tête des stratèges démocrates, mais je pense qu'on vise aussi l'avenir avec Kamala Harris, parce qu'on le sait, peut-être que oui, campagne-là pour devenir la candidate à la présidence, mais dans 4 ans, quand elle va avoir eu un rôle très, très important, parce que je pense qu'on va lui donner un rôle important dans cette présidence-là, si ça a lieu, ça va l'aider pour peut-être le futur du parti. Et je pense qu'il va s'entourer, Joe Biden, justement, parce qu'il y a toujours la critique, bon, c'est un homme blanc qui a plus de 70 ans. Je pense qu'il va s'entourer dans son cabinet, donc avec ses secrétaires, qui est l'équivalent des ministres ici, de gens qui sont peut-être plus progressistes, qui sont différents, qui sont jeunes, pour démontrer que oui, il y a de l'avenir au Parti démocrate et ça fait partie de ce noyau-là qui va être à la Maison-Blanche s'il est élu, bien sûr.
Ce qui est particulier, Joe Biden fait une carrière qui est pas mal comme du télétravail en ce moment. Hein?
Oui, on dit toujours qu'il fait campagne de son sous-sol.
c'est nouveau avec tout ce qui se passe actuellement. On dirait qu'il n'y a rien qui est normal. Et dans le cas de Kamala Harris, écoutez, c'est sûr qu'elle aura beaucoup à dire. Est-ce que d'après toi, c'est un bon geste de l'avoir choisi?
Je pense que c'était le geste le plus prévisible, le plus, je vais utiliser le mot anglais, le plus safe. Donc, qu'avec certitude, elle avait moins peut-être de critiques envers elle, parce que c'est quelqu'un quand même d'expérience qui est très, très bonne au Sénat. Là, elle est vraiment bonne pour interroger quelqu'un. Elle l'a fait avec le juge Brett Kavanaugh quand il était en nomination à la Cour suprême. Là, ça a passé partout dans les médias à l'époque. Mm-hmm. Alors oui, je pense que c'est un bon choix. Elle représente aussi des minorités aux États-Unis, donc ça, c'est important pour les démocrates. Donc je pense que oui, ça va être un bon choix et ça va être intéressant. Et moi, j'ai mis un petit... j'ai encerclé dans mon calendrier que le 7 octobre, il va y avoir un débat entre elle et Mike Pence, qui est l'actuel vice-président des États-Unis. Et ça va être très, très intéressant à voir. Je pense que ça va être suivi plus qu'à l'habitude. Donc, un peu parce que le vice-président, c'est un peu le chien de garde, donc du président et dans ce cas-ci, du candidat. Alors, elle n'aura pas peur d'aller au front et de défendre les intérêts de Joe Biden, à mon avis.
Étant donné que les Américains sont nos voisins, est-ce que tu penses que... Puis elle vient de Montréal. Est-ce qu'elle parle français?
Je ne le sais pas. Je sais c'est que ses parents avaient l'intention de venir à Montréal pour qu'elle apprenne le français, mais dans toute la campagne, il y avait seulement Pete Buttigieg, qui était, lui, un maire de l'Indiana, qui parlait très, très bien français. Il parlait 6 langues, d'ailleurs. Et Kamala Harris n'est jamais ressortie. Alors, si elle parle français, je crois que c'est vraiment très, très limité. Là, ça, c'est de ma perception à moi. Mais quand même, ça va être intéressant. Mais peut-être que, par contre, pour les relations avec le Canada qui vont être un peu effritées avec la présidence Trump, on s'entend bien là. Ouais. Est-ce que cette proximité-là qu'elle a avec le Canada, avec le Québec, va aider aux relations? Peut-être que Joe Biden va lui dire, écoutez, t'es en charge de peut-être aller rencontrer une délégation ici au Québec ou au Canada. Donc ça, c'est une possibilité parce que le vice-président, c'est vraiment le bras droit du président et il peut avoir différents mandats. On le voit avec Mike Pence qui s'occupe de la lutte à la COVID-19 aux États-Unis. Alors, il n'y a pas une description de tâches précise pour le vice-président. Il y en a une, mais je veux dire, ça s'élargit vraiment beaucoup. Alors, peut-être que cette proximité-là, est pas mauvaise aussi pour les Canadiens.
En tout cas, ça peut pas être pire que ce que c'est là, ça, c'est certain.
Oui.
Mais en ce moment, avec la nouvelle taxe qu'impose Trump et également Justin Trudeau qui dit qu'on va y aller œil pour œil et dent pour dent parce qu'il a décidé que de notre côté aussi, on augmenterait au niveau des taxes à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu un feedback sur ça en ce qui a trait au président américain?
Écoutez, la décision qui a été prise, il ne faut vraiment pas se leurrer, c'est vraiment une décision électoraliste, purement électoraliste, parce que beaucoup de gens aux États-Unis qui disent que ça peut nuire, ces taxes-là, justement, à la production aux États-Unis, parce que les chaînes de montage sont vraiment interreliées. Là, je ne suis pas spécialiste du domaine particulier de ce métal-là, mais c'est ce que les experts expliquent. Et ce qu'ils disent, c'est que ça peut nuire, mais le fait qu'il ait fait cette promesse-là, c'est pour démontrer qu'il y a encore la même mentalité America first, et ça lui dérange pas de piler un peu sur le dos de ses alliés, de ses amis. Alors, ça s'est fait aussi dans une usine en Ohio, c'est pas pour rien, parce qu'il veut gagner l'Ohio. Alors, il y a vraiment eu un calcul qui a été fait, et s'il est réélu, ça se peut très bien qu'il y ait une entente rapidement avec le Canada, ou qu'il y en ait une même avant l'élection pour démontrer, regardez, c'est encore moi qui ai réussi à négocier, et je suis le grand négociateur que je vous ai promis que j'allais être. Alors, il y a vraiment un côté, je vous dirais, électoraliste, parce que la plupart des experts, même américains, s'entendent pour dire que c'était pas nécessaire à ce moment-ci d'imposer toutes ces taxes-là et d'entrer en une autre, un peu une guerre commerciale avec les voisins canadiens.
Moi, l'image que j'ai de Trump, tu vas me dire si je me trompe, là, c'est comme la personne, c'est comme une personne qui est sur son terrain et qui s'occupe juste de son terrain et qui s'en occupe beaucoup, mais se fout des voisins.
Oui, oui, je pense que c'est une très bonne analyse parce que c'est ce qu'il il a toujours défendu, ce point-là. Il a dit les États-Unis vont redevenir ce qu'ils étaient auparavant. Mmh. Alors, il dit c'est terminé les guerres sans fin ailleurs dans le monde. C'est terminé que les alliés nous pilent sur le dos. On le sait avec l'OTAN. Il a dit aussi qu'il allait couper les fonds avec l'OMS. Il s'en est sorti aussi de cette organisation-là. Donc, c'est vraiment pas la même politique qu'on avait où on était très axé vers l'international, vers ce qui se passait ailleurs avec Barack Obama, par exemple, ou avec d'autres présidents avant. Mm-hmm. Lui, il est vraiment plus isolationniste en se disant « Je protège mon intérêt et mon intérêt, mon jardin, un peu comme tu l'as dit, c'est les États-Unis, donc c'est ce que je vais faire. » Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Donc, OK, pourquoi est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec certaines personnes, disons, moins aimées aux États-Unis, comme Vladimir Poutine mm-hmm. ou comme Kim Jong-un? Alors, il y a eu ces questionnements-là, mais à la base, tout le plan de sa campagne et sa réélection, même sa première élection, ça tourne autour de America First. Et vous voyez, je vais être le président qui va toujours mettre les États-Unis au-dessus de tout, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est vraiment logique qu'il continue dans cette veine-là. Est-ce que dans son deuxième mandat, parce qu'on peut juste avoir deux mandats aux États-Unis, il y a des choses qui vont calmer un peu parce qu'il ne sera pas en mode réélection? Parce que je pense que j'ai l'impression que le président a toujours été en mode électoral depuis son élection. Ça pourrait peut-être quand même changer avec un deuxième mandat.
Avec Marjorie Taylor Greene qui a remporté une primaire républicaine, est-ce que d'après toi, on va se laisser sur ça, est-ce que d'après toi les chances sont grandes, minimes ou impossibles que Trump reprenne le pouvoir et devienne encore une fois pour un deuxième mandat le président américain?
Je pourrais jamais dire impossible parce que il peut toujours se sortir de plein de situations. Ouais. Avec la pandémie, par contre, ça a été très, très difficile pour lui. Ça va être difficile de remonter la pente parce que c'est un président qui mettait de l'avant ses résultats économiques. En ce moment, ça va pas bien économiquement parlant aux États-Unis. Donc, ça va être dur de remonter la pente. Mais vraiment, je pourrais pas dire impossible parce que il peut toujours sortir quelque chose de sa manche. Et vraiment, il y a une base qui est extrêmement solide aux États-Unis. Il faut jamais l'oublier, qu'ils vont le suivre coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Donc, je pense que le camp démocrate le sait et c'est pour ça qu'ils ne vont pas lâcher le morceau jusqu'à l'élection du 3 novembre pour justement ne pas faire comme la dernière fois et juste se dire oui, Hillary Clinton va passer. On ne se dit pas la même chose avec Joe Biden.
Et deux mandats, ça ne veut pas dire que l'un sur l'autre. Il pourrait perdre ses élections et revenir dans 4 ans pour un autre mandat.
Exactement. C'est deux mandats seulement. C'est ça qui est dans la Constitution américaine, mais
il
ça ne donne pas de précision du temps. Non, ça, il ne peut pas. Écoutez, sinon, on rentre dans une guerre civile. Je vous le confirme.
Absolument. Valérie, ça a été un plaisir encore une fois, puis au plaisir de se croiser dans les corridors de la station. Oui. Chercheuse, chercheur associé. On dit-tu chercheuse ou chercheur?
Je pense que les deux se disent, mais moi, je dis chercheur. Okay. Mais c'est vraiment au choix du chef.
OK. Bon, on va dire chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et chroniqueuse de politique américaine. Merci beaucoup, Valérie. Passe une belle journée.
Ça m'a fait grand plaisir. Bonne journée.
Bye-bye, Valérie Beaudoin.